Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces instants bénis et nous te commandons entre tes mains. Nous prions pour que ton Esprit Saint puisse nous guider et que tout ce que nous ferons soit pour ta gloire. La gloire de celui qui a donné sa vie, la gloire de celui qui vit et qui vient bientôt, Jésus-Christ le Juste. Merci Père de nous avoir donné des opportunités de pouvoir nous parler même au loin et de nous faire que ta grâce sur chacun de nous. Être avec ceux qui vont nous joindre. Bénis-nous. Bénis notre modérateur du jour au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Samuel, pour la prière. Nous allons continuer au chapitre 38 de Genèse. Nous commençons la lecture à partir du verset 12 jusqu'à la fin de notre texte, de ce chapitre. Donc, là, je vais demander à Pasteur José des États-Unis de nous lire les textes, s'il vous plaît.
Merci. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Après un certain temps, la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Quand la période du deuil fut terminée, Juda se rendit à Timna avec son ami Hira d'Adulam pour voir ceux qui tendaient ses moutons. Lorsque Tamar apprit que son beau-père allait à Timna pour tendre ses moutons, elle quitta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et alla s'asseoir à l'entrée de Naïm qui est sur le chemin de Timna. En effet, elle s'était rendue compte que Shéla était devenue adulte, mais qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Juda vit Tamar et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait voilé son visage. Ne sachant pas que c'était sa belle-fille, il se dirigea vers elle au bord du chemin et lui dit, « Laisse-moi venir avec toi. Que me donneras-tu pour cela ? » répondit-elle. Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau, dit-il. Elle répliqua, oui, mais donne-moi un gage en attendant. Quel gage veux-tu? Demande-t-il. Elle répondit, ton cachet personnel avec son cordon et le bâton que tu tiens. Il lui donna et alla avec elle. Elle devint enceinte de lui. Elle rentra chez elle, enleva son voile et reprit ses habits de veuve. Juda envoya son ami d'Adulam porter le chevreau promis et récupérer les objets donnés en gage à cette femme. Son ami ne la trouva pas. Il demanda aux gens de Naïm, où est cette prostituée qui était au bord du chemin près d'ici? Il n'y a jamais eu ici de prostituée, répondit-il. L'ami revint dire à Juda, je ne l'ai pas trouvée et les gens de l'endroit n'ont même pas affirmé qu'il y avait jamais qu'il n'y avait, pardon, jamais eu de prostituée. Judas lui répondit, qu'elle garde ses objets. Ne nous rendons pas ridicules. En tout cas, j'ai envoyé les chevaux et toi, tu n'as pas retrouvé cette femme. Environ 3 mois plus tard, quelqu'un vint dire à Judas, « Ta belle-fille et ta mère s'est prostituée. La voilà enceinte. Qu'on l'amène, ordonna Judas, et qu'on la brûle vive. Pendant qu'on l'amenait, elle fit dire à son beau-père, « Regarde, ces objets, ce cachet personnel, ce cordon et ce bâton appartiennent à l'homme dont je suis enceinte. Tâche de savoir qui est cet homme. » Judas reconnut les objets et déclara, elle a respecté la loi mieux que moi. C'est vrai. J'aurais dû la donner pour femme à mon fils Sheila et je ne l'ai pas fait. Judas n'eut jamais plus de relation sexuelle avec elle. Au moment de l'accouchement, on s'aperçut qu'elle avait des jumeaux. L'un d'eux sortit alors un bras. La sage-femme le saisit et y attacha un fil rouge. Celui-ci est le premier-né, dit-elle. Mais l'enfant retira son bras et son frère vint au monde le premier. La sage-femme s'exclama, « Quelle brèche tu as ouverte ?» Judas l'appela donc « Pérès », ce qui veut dire « brèche ». Puis l'autre enfant vint au monde avec ce fil rouge au bras et Judas l'appela « Zéra ». Que Dieu bénisse sa parole.
Amen. Oui, merci beaucoup pour la lecture, Papa José.
Merci.
Quelle histoire placée au milieu de l'arrivée de Joseph en Égypte. Et les textes nous montraient à la fin du chapitre 37 qu'il est effectivement arrivé en Égypte et que là, il a été vendu auprès de Potiphar, le chambellan au Pharaon, donc le commandant des gardes de Pharaon. Mais pourquoi ne pas continuer avec l'histoire pour voir comment le jeune homme de 17 ans va vivre dans une nouvelle terre? Non, on va nous placer Judas et Tamar juste pour nous montrer le contraste qu'il y a entre l'intégrité de Joseph et la vie désordonnée des autres, et Judas en est vraiment un exemple dans notre texte. Voilà, nous nous sommes arrêtés hier avec la promesse, mais c'était une promesse faite avec ruse. Judas qui promettait à Tamar de s'en aller chez elle. Mais intérieurement, il se disait que je ne veux plus encore risquer, j'ai déjà 2 fils perdus, je ne veux plus encore risquer le troisième au risque de ne pas avoir de progéniture après si Sheila mourait, qui va continuer ma progéniture. Alors, dans l'humour de Dieu, nous allons voir que la progéniture ne sera pas continuée. La lignée de la bénédiction de Judas ne sera pas continuée avec Sheila, ce sera avec les enfants que Tamar, avec sa ruse aussi, sa malignité, va tromper les trompeurs. C'est ce qui fait qu'elle va avoir deux enfants. Celui qui sort le premier, Pérez, quand nous lisons dans les Écritures, c'est celui qui est l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Quelle histoire. Je jette un coup d'œil dans mon recueil pour voir les questions qui nous ont été recommandées dans notre texte. Donc la première question, c'est la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte? La deuxième question, c'est la question 6. Y a-t-il un avertissement dans ce texte? Et la dernière question, la question 7. Quelle vérité Dieu nous révèle-t-il dans le texte? Voilà, frères et sœurs, cela dit, le texte est un peu long. Nous pouvons commencer à partir du 12e verset. Et dans un premier temps, nous pouvons nous arrêter jusqu'au moment où cette femme va déclarer qu'elle est enceinte. Au verset 22, Judas retourna auprès de Judas et dit, « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les gens de l'endroit ont dit, « Il n'y a pas ici de courtisane. » Il va laisser les objets. Et nous allons dans un premier temps nous arrêter au verset 23. Parcourons, en prenant deux ou trois versets, trouvons quelle vérité, quelle leçon, quel exemple à suivre ou à ne pas suivre dans cette première partie. Et après, nous verrons maintenant la deuxième partie avec cette femme qui est enceinte et qui est maintenant connue et les déclarations de cet homme qui veut qu'on la tue, mais elle n'a pas eu, elle n'est pas enceinte seule. Si on la tue, on la tue aussi celui qui est l'auteur de la grossesse. Voilà, cela dit, frères et sœurs, nous pouvons maintenant demander la parole et aller vraiment de l'avant. Oui, tu peux commencer, papa José.
Oui, je suis au verset 12. Il est question de la mort de la femme de Judas. Oui. Après un certain temps, la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Alors, nous pouvons dire que Judas a connu jusque-là trois décès. Les deux enfants, les deux garçons sont morts. Et puis, s'ajoute celle de sa femme, la mère et de ses enfants. Humainement parlant, c'est vraiment dur de connaître trois décès dans la famille. Et l'homme se sentait vraiment malmené avec tous ces deuils qui se suivent de cette façon. Mais comme c'est Dieu qui est, même si notre Dieu est absent ici dans le récit, mais c'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit les choses. Il laisse Judas sans femme. Nous pouvons dire que cette femme, la fille de Choua, n'était pas la femme du Seigneur, c'est-à-dire la femme que le Seigneur voulait pour Judas. Parce que le Seigneur a un projet. Il a un projet pour Judas, mais ce n'est pas avec cette femme. Parce que cette femme aurait pu donner, comme il a donné 3 enfants, l'amour ne pouvait pas vraiment visiter la famille de cette façon, mais c'est arrivé. Et voilà que maintenant, elle part. C'est pour montrer qu'elle n'était pas sur le projet de Dieu pour Judas. Pour Judas. Donc, oui, nous pouvons nous étonner, être frappés de ces morts qui se suivent, mais le plan de Dieu est toujours là. Est toujours là dans nos vies. Et nous pouvons tout simplement accepter que le plan du Seigneur soit réalisé. Seulement, nous ne voyons pas, nous n'avons pas Dieu, les yeux qui voient vraiment ce que Dieu veut, mais nous subissons, mais nous voulons subir en tant que croyants, en tant que bien. Que sa volonté soit faite.
Amen.
Merci.
Oui, merci. Ce n'était pas dans le projet de Dieu. Cet homme, Judas, c'est un homme sur qui Dieu a des regards parce qu'il a un grand projet pour l'humanité avec lui. Mais ce n'est pas cette femme ni ses enfants qui vont entrer dans ce projet. Et au verset 13, on va rapporter d'abord, avant même d'arriver au verset 13, nous voyons Judas qui reconnaît la souveraineté de Dieu dans le sens que Dieu a donné et Dieu a retiré. Et il va maintenant, il ne va pas faire le deuil éternellement pour ne plus rien faire, pour dire non, toute la vie est arrêtée. Non, il va tourner la page pour dire, si Dieu a donné, c'est Dieu qui permet que ceci arrive, je vais m'occuper d'autre chose. C'est ainsi que il va se rendre effectivement à Timna. Et là, le verset 13, cette fois-ci, dans 13 même et 14, il y a sa belle-fille qui est veuve, qui va entrer en action. On va lui rapporter le départ de son beau-père vers Timna et va dire, elle aussi, elle doit se rendre là-bas, mais d'une autre manière. Donc nous voyons ici aussi la ruse de Tamar aussi. Elle s'est dit, j'ai été trompée. Pourquoi il a été trompé? Parce qu'on l'a fait attendre. La promesse a été faite. Au verset 11, elle est promise d'attendre Shéla. Mais elle constate que Shéla est déjà adulte. Il n'y a rien qui se fait. Donc, elle est consciente qu'elle a été trompée. Bon, comme j'ai été trompée, je veux maintenant mettre le piège sur le chemin de la personne qui m'a trompé. C'est ainsi qu'on nous dit qu'elle est effectivement montée aussi à Timna, mais c'est là, nous allons voir la suite. La leçon que je tire, c'est qu'elle est consciente d'être d'abord, elle a été écrasée par le deuxième fils Ona. Elle a été fortement humiliée. Et cette fois-ci, l'attente devient une attente longue. Mais ce déplacement montre l'espérance. Elle continue à croire qu'elle peut avoir la progéniture pour son feu mari. Bon, merci beaucoup. Nous continuons encore une intervention.
Je vais continuer l'idée. Allô?
Oui, allez-y.
Oui, vraiment, cette femme doit être inspirée, puisque, comme tu as dit là, il y avait en elle de l'espérance. Elle espérait toujours avoir un homme qui peut lui donner un enfant. Mais sa façon de se déguiser, ça donne une matière à réflexion. Il se déguise en prostituée lorsqu'il a appris que son beau-père est devenu veuve. Oui, elle est devenue veuve et elle se met là où elle peut être visible à ces messieurs, à cet homme nouvellement veuf. Oui, c'est vraiment, c'est une pensée qui est venue d'elle. Et elle s'est mise à l'exécuter, à décrire cette pensée. Cela est tombé juste. Nous sommes au verset, verset 15. Oui. Verset 16. Oui. Alors, quand le monsieur est arrivé là-bas, ne sachant pas que c'était sa belle-fille, il se dirigea vers elle au bord du chemin et lui dit « Laisse-moi venir avec toi. » Bon, donc là, nous voyons la préparation d'une main invisible, une main invisible qui a préparé cette rencontre comme ça. Vraiment, là, humainement parlant, on ne peut pas expliquer, mais c'est arrivé. C'est comme ça. Oui. Que celui qui est invisible, mais qui est toujours présent dans les projets des hommes, il a arrangé cette rencontre.
Merci. Merci, papa. Il a arrangé cette rencontre. En même temps, on dirait que cette fille, Tamar, connaissait son beau-père.
Oui. Oui.
Elle le connaissait pour dire tel que je le connais, tel que je vois comment il a l'habitude de regarder. Ça, c'est pas dit, on s'imagine.
Non, non.
Il va se mettre à un endroit pour que, comme il a peut-être souvent l'habitude d'aimer ou de regarder, il ne peut pas passer sans regarder si je me mets à tel endroit. Donc, ça, c'est une stratégie d'une personne qui connaît réellement la personne.
Voilà.
OK. Papa José de Paris, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci beaucoup, pasteur. Moi, je voudrais poser une question. Parce que, en méditant, je me suis dit, mais je ne sais pas la vie que ces gens-là menaient à cette époque-là, parce que nous ne sommes plus à cette époque. Comment tu peux aller avec une personne et puis tu ne la connais pas? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il faut porter toujours le voile jusque, voilà. Parce que, je pense, je retourne pas en arrière, Jacob lui-même a été trompé à Maria. Mais comment cela est arrivé sans connaître que ce n'était pas Rebecca, c'était Léa. Ensuite, maintenant, encore, il a la même situation, ça revient encore. Donc, je me suis posé la question, mais comment ils vivent ces gens-là? Comment? je n'arrive pas à comprendre. Puis, ma réflexion encore, c'est un peu en arrière, je m'excuse bien, mais je dois quand même parler parce que la parole de Dieu. Lorsque Judas avait eu l'intention d'abandonner la famille et de s'éloigner très loin, nous avons dit qu'il s'est éloigné de Dieu. C'est vrai. Mais la faute aussi qu'il avait commis Judas, c'est que c'est lui qui avait eu la pensée de vouloir vendre leur petit frère. Et maintenant, il doit s'éloigner avec cette situation. Donc, dans la maison où ils étaient ensemble, ils voyaient leur papa, comment il pleurait, comment il avait fait le deuil. Et tout le monde savait le secret que cet enfant n'était pas mort, il est vendu. Mais personne n'a pu oser dévoiler le secret. Ils sont restés avec le secret jusqu'au fond de leur cœur, jusqu'à ce que Judas maintenant va s'éloigner avec les problèmes dans le cœur. Et bien voilà là où il est parti, il n'a pas été béni, il a commencé à rencontrer des choses. Bon, ça c'est, je suis rentré un peu en arrière. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous vivons maintenant, que la situation de Judas n'était pas agréable jusque-là. Bon, je m'arrête un peu là pour ne pas monopoliser la parole. C'est toujours là le problème qui a débuté, donc qui est toujours resté jusque-là. C'est ça qui est à l'origine de tout ce qu'il est en train de vivre. Voilà, ça, c'était ce que j'avais reçu quand je méditais.
Et merci pour toutes ces préoccupations. Et même la question, comment est-ce qu'ils étaient en train de vivre, ne pas reconnaître une personne avec qui elle est restée longtemps. La belle-fille, ne fût-ce que par la voix, on peut reconnaître la personne, mais... Ne reconnaissent vraiment rien. Papa José des États-Unis disait tout à l'heure, il y a la main de Dieu derrière qui voudrait réaliser un projet. Mais qui voudrait réaliser un projet, pas avec la femme qui est décédée, la femme de Judas, mais avec cette fille, Tamar. Qui voudrait réaliser un projet avec cette fille, Tamar. On l'a vu comment... Elle a été méprisée, d'abord épousée un homme méchant et mauvais, Dieu l'a tué. On lui donne un second mémement qui se comporte d'une mauvaise manière, Dieu l'a tué. Mais notre Dieu, c'est le Dieu qui soutient les faibles, c'est le Dieu qui soutient les délaissés pour compte. Et elle est là, même quand on l'a renvoyée chez elle, on l'a trompée encore. Et Dieu voit tout cela. Et nous sommes en train de voir, comme Papa José disait, la main de Dieu est derrière jusqu'au moment où elle va devenir l'ancêtre du projet divin qui était déjà tracé. Bon, je laisse la parole à... Aux autres qui vont parler peuvent faire aussi allusion à cela. Pasteur Samuel, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci beaucoup, mes frères.
Un peu à haute voix, papa.
Je disais merci beaucoup.
Okay.
Je voudrais ici parler surtout de cette femme.
Ok.
On voit d'abord pourquoi Dieu va l'utiliser. On voit sa fidélité vis-à-vis de son défunt mari. Et même quand elle est trompée, elle reste toujours ferme. On ne dit pas qu'elle s'est prostituée là où elle est partie. Vous voyez un peu cette attitude-là. Elle est fidèle, elle est patiente, elle est obéissante. Ce sont les trois éléments qui ressortent dans son profil, quand on voit son profil. Elle est patiente. On ne sait pas quel âge son elle avait lorsque son frère Onan était mort. Mais on voit qu'elle a dû patienter quand même pendant un certain nombre d'années. Ce n'était pas une année.
Non.
Elle a patienté longtemps. Elle a compté, elle était obéissante envers son beau-père. Le beau-père l'a compté, mais elle était fidèle, elle est obéissante, elle est retournée dans la famille. Elle est restée fidèle. Alors, je vois que c'est là que nous devons avoir. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Donc, on ne se précipite pas. On ne voit pas cette femme se précipiter.
Ouais.
Mais il a dû tenir ferme pour attendre. Et là, on voit aussi qu'il a l'intention d'honorer son défunt mari aussi, comme vous l'avez déjà dit en d'autres termes.
Ouais.
Donc, on voit ici pourquoi le Seigneur, dans sa souveraineté, va l'utiliser. Mais aussi, ce que je vois aussi, dans l'appréciation de Dieu, elle est différente de notre appréciation. Si on avait aimé Rachel plutôt que Léa,
c'est ça.
Vous voyez comment Dieu va utiliser Léa. Judas, descend de Léa.
Ouais.
Alors, on voit ici aussi que Dieu va utiliser encore une fois ici celle qui est rejetée. Mais tous les hommes, on voit même pour l'analyse de son beau-père ici, il s'est dit, bon, en tout cas, cette femme, elle est porte-malheur.
C'est ça.
Je ne vais pas lui donner mon fils. Mais Dieu, ce n'était pas la pensée de Dieu. Dieu va l'utiliser. C'est là que nous pouvons même voir ce qui est dit dans les livres de Samuel, où on voit que les hommes regardent à l'apparence. Dieu regarde le cœur. Et si elle est parvenue à tromper son beau-père, je crois que c'est avec raison, parce que dans les lois, selon les lois de l'époque, si on lit par exemple dans, je crois, le livre de Deutéronome, je crois qu'il devait, c'est parce que son beau-père n'a pas assumé ce qu'il devait faire comme beau-père à l'endroit de sa belle-fille. Que je voulais partager, relever dans le texte, et qui doivent aussi nous interpeller pour dire comment est-ce que nous nous jugeons des hommes, des femmes dans nos communautés. Mais ici aussi, on voit que Dieu va se servir de cet enfant. C'est un enfant incestueux. Mais Dieu va l'utiliser. Il va utiliser Pérès pour qu'il devienne ancêtre de Jésus. En tout cas, c'est là que nous voyons la différence entre les hommes et Dieu. Les jugements des hommes sont différents aussi du jugement de Dieu. Dieu juge, Dieu apprécie différemment de nous.
Amen.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pasteur Samien. Si vous êtes connecté en retard, nous sommes en Genèse 38, de 12 jusqu'à la fin, jusqu'à 30. Là, nous sommes déjà aux environs entre 17 et 23, en train de voir les qualités de cette femme Tamar, qui a été méprisée, délaissée, même le jugement de son beau-père, c'était, on l'a regardé avec répugnance en disant, elle est porte-malheur. Femme est porte-malheur. Mais elle, dans sa fidélité, elle est restée fidèle, elle est restée obéissante, elle est restée espérante qu'elle donnera un jour en naissance ou la progéniture à son feu mari. Et Dieu va l'honorer. Nous allons voir vers la fin de notre texte que Dieu va l'honorer. Merci beaucoup. Maman Christine, tu avais quelque chose à dire?
Non, papa, juste là, je suis en train de suivre. Vraiment, c'est intéressant. La stratégie que cette femme a utilisée. Je suis en train de suivre, papa. Merci.
Merci. Merci, papa José de des États-Unis. Tu as encore la parole.
Oui, merci beaucoup. Moi, je vais parler de son intelligence quant à ce qu'il demande comme gage. À ce qu'elle demande comme gage. Le monsieur lui a proposé un chevron. Je t'enverrai un chevron de mon troupeau. C'est au verset 16. 17. Merci. Oui, elle est d'accord de cela, mais plus loin, pour demander son cachet, un cordon et son bâton. Le chevron proposé peut être égaré ou même mort. Et là, il ne pouvait pas avoir de signe, de preuve que j'étais avec cet homme, parce que le chevron n'est pas là. Et ce chevron n'a pas le nom de Judas. Donc, non, c'était un cadeau, c'était pas cadeau, mais quand même quelque chose qui ne tient pas longtemps. Alors que le cachet, le cordon et le bâton, ça appartiennent vraiment à un homme. À un homme. Et quand, quel que soit le tribunal, ou là où elle serait, quand elle montre ses bâtons, quand elle montre ce cordon et ce cachet avait le nom, avait le nom de Juda, il ne pouvait pas dire, oh non, ce n'est pas moi, quelqu'un. Non, c'est son cachet. Donc, ici, je vois l'intelligence de cette femme qui fait que l'homme ne puisse pas avoir le courage de nier. Oui, il va facilement accepter lorsque nous verrons la suite. Ah! Il dira que lui, il a été beaucoup plus intelligent que moi, parce que je l'ai trompé. Donc, je vois l'intelligence de cette femme qui a fait qu'elle puisse demander les objets appartenant réellement à ce monsieur. Le chevreau devait mourir ou s'égarer. Mais le cachet, le cordon et le bâton ne pouvaient pas s'égarer parce qu'elle-même en prenait soin. Voilà ce que je peux aussi ajouter dans cette phare de la maman, Tamar.
Merci beaucoup. Merci de cet ajout dans le dossier de cette femme. Après, quand on va la rechercher pour lui remettre les chevreaux, les chevreaux, elle est introuvable. Elle est déjà rentrée. Les commissionnaires, l'ami de Judas, va faire des recherches. Impossible de trouver cette femme. Et même le travail que le commissionnaire est en train de faire, ça c'est un exemple à ne pas suivre, d'avoir tel ami qui ne conseille pas son ami de trouver une personne sur la route, d'aller avec elle et puis de chercher des choses pour lui remettre. Ça, c'est vraiment un exemple à ne pas suivre que ce commissionnaire est en train de faire. Voilà, cela, j'aimerais que nous n'avons plus assez de temps, que nous puissions aborder la deuxième partie pour voir la déclaration de Judas quand il va prendre sa belle-fille est enceinte et aussi l'arrivée des enfants. Voilà, je vois papa, pasteur Samuel, tu as la parole, s'il te plaît.
Okay, merci beaucoup, mais je voulais dire que cette dame, elle a exigé des choses qui étaient de grande valeur.
Oui.
Le cachet, le cordon et le bâton. Ce sont des choses importantes. Alors que le cabri, pour lui, pour ce n'était pas aussi important que ces trois éléments qu'il avait demandé. Et elle savait aussi que son beau-père était menteur. Un homme rusé. Il pouvait même pas peut-être envoyer des cabris en question. Mais, ici, il a demandé des choses. Il montre aussi vraiment son intelligence. Il montre aussi que la main de Dieu, comme nous avons vu, on avait dit au départ, là, vous vous souvenez, est quand même là.
Oui.
Mais on voit le jugement de cet homme, son beau-père, quand il apprend qu'elle est enceinte, il dit, faites-la sortir et brûlez-la.
Déjà,
verset 24. Oui, le verset 24, oui. Lui-même ne sait pas qu'il avait, lui, se prostituer. Il ne peut pas dire, mais moi, j'avais fait ça. Alors, mais si l'autre l'a fait, on peut le pardonner. Non, qu'on la brûle. Là, il va appliquer la loi à la lettre. Mais c'est là qu'on voit que ce que la femme avait exigé était important, verset 25. Parce qu'il va dire, pendant qu'on met Tamar dehors, elle envoie quelqu'un dire à son beau-père, regarde ce saut, ce cordon et ce bâton. C'est de leur propriétaire que j'attends un enfant. Tâche de savoir qui ils sont. Vous voyez ici, il confond son beau-père. Et cela culmine dans la déclaration de son beau-père pour dire qu'elle a été juste, plus juste que lui-même. Donc on peut voir ici que c'est une confession.
Et
c'est cette confession qui disculpe maintenant, qui disculpe maintenant la dame, qui donne maintenant la valeur à la dame.
Oui.
C'est là que je vois vraiment que Dieu, en effet, que cette dame était une dame juste quand même.
Oui.
Malgré ce qu'elle a fait avec son beau-père. Là, ce que je pouvais dire.
Merci beaucoup, Papa Samuel. C'était vraiment une dame juste. Et je crois que toutes ces qualités que nous venions de relever, c'est vraiment une des raisons qui va pousser vraiment le Seigneur à l'utiliser pour lui donner la position qu'elle a aujourd'hui. Et les déclarations de Judas, d'abord, la première déclaration de légèreté, c'est l'abandon des choses très importantes de sa vie. Quand on va lui dire que non, on la retrouve pas, il va même déclarer, oh, ça peut même rester. Ça peut même rester. Qu'elle garde, verset 23, Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Et le mépris n'est pas venu après. Oui, mépris est venu parce que tout le monde a appris que cet homme-là a fait des enfants avec sa belle-fille. Le mépris est venu quand même. Mais les objets dont il veut laisser, c'est son identité. Pour voir comment on peut se rabaisser jusqu'à abandonner son identité. Donc, C'est vraiment une grande leçon pour nous, pour dire nous avons une identité à défendre. Nous n'allons
Amen.
Pas, avec notre identité, et laisser notre identité n'importe où, ou faire n'importe quoi pour qu'on puisse bafouer ou fouler au pied notre identité. André, merci beaucoup. Regardons maintenant la naissance de ces deux enfants. Nous allons bientôt terminer. Il y a une personne qui a quelque chose à dire à propos de cette naissance. Oui, Papa José, tu vois la parole.
Oui. Après avoir reconnu tous ses biens, l'homme accepte.
Oui.
Et ce qui une note positive là, c'est que à la fin du verset 26, Judas n'eut jamais plus de relations sexuelles avec elle.
Mm.
Oui. Parce que vraiment c'est humiliant.
Mm.
C'est humiliant qu'il puisse continuer à vivre sexuellement avec cette femme, ce n'est pas honorant. Mais après vient l'accouchement. Au verset 27-28.
Même 29.
Oui, pardon.
Même juste 30, c'est toujours l'accouchement.
Oui, c'est toujours l'accouchement. Il y a un enfant qui veut sortir avant. Il laisse sortir sa main, son bras, et la sage-femme attache un fil rouge. Pour elle, c'est cet enfant qui porte le fil rouge et qui est le premier à sortir, ou bien l'aîné. Ça, c'est la façon dont elle a pensé. Mais ce n'est pas le cas. L'enfant là a retiré son bras et c'est son frère qui vient le premier.
Oui,
et il sort le premier et l'autre après. Nous, c'était l'enfant portant le fil rouge qui est le premier. Mais en réalité, il n'est pas sorti le premier. Il a montré ses mains, sa main. C'est pour dire que le premier seront les derniers, comme disait le Seigneur. Oui, les premiers seront les derniers et les derniers seront le premier. Et c'est bien le dernier là qui devient grand parce que il est l'ancêtre de notre Seigneur. Donc, on voit ici une réalisation de la parole de Dieu, vraiment extraordinaire, extraordinaire. Le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. Lui qui était le dernier, il est devenu l'ancêtre de notre Seigneur. C'est bien Pérez. Voilà.
Merci, merci beaucoup. Papa Samuel, je vois la main, juste... en une minute pour que je puisse lire les commentaires dans le pain du jour.
Merci beaucoup. Mais je voulais juste ici voir que l'auteur biblique, dans ce texte, essaie un peu, nous relate ici l'histoire presque identique à la naissance de Jacob et Ésaü. Vous vous rappelez, dans l'autre texte, c'était Jacob et Ésaü qui sort, mais Jacob qui touche le talon de son frère. Mais ici, l'auteur montre quand même que bon, l'autre, il fait sortir la main le premier. Et c'est pour montrer que le deuxième supplante en quelque sorte le premier.
Ouais.
Ici, par rapport, comme dans l'autre texte, où Jacob supplante Ésaü. Donc on voit un peu cet aspect du second qui devient grand, qui devient puissant, qui devient l'aimé de Dieu, l'aimé aussi de Dieu.
Oui.
Merci.
Oui. En tout cas, merci beaucoup, frères et sœurs, d'un texte extrêmement riche qui est placé comme, je dirais, comme un jambon dans le texte, dans l'histoire de Joseph. Et là, nous allons vraiment voir comment ce Perret va devenir l'ancêtre de notre Seigneur Jésus. Et ce n'est pas même dans le calcul de Judas. Judas, lui, préservait Sheila pour dire, au moins j'aurai ma bénédiction derrière ce garçon qui est resté. Donc, notre façon de voir les choses, ou nos sécurités en nous personnelles, nos calculs, ne sont pas nécessairement les calculs de Dieu. Et là, nous voyons dans ce texte les trompeurs ou le rusé qui est trompé et qui le reconnaît lui-même au verset 26 qu'elle a été plus sage et plus intelligente que moi. Rapidement, notre frère, j'ai eu son nom tout à l'heure, c'est un, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, non, c'est une sœur. La sœur Madeleine Todio de Cameroun a commenté aussi ce texte. J'aimerais rapidement nous lire. Là, intitulé sa intrigue. La revanche, malgré le temps et les épreuves, le désir de Tamar d'avoir une progéniture subsiste, fils de son beau-père selon ses coutumes hittites. Se voyant trompée, elle agit par ruse pour se faire entendre et assouvir son désir. Son plan marche. Judas se prostitue avec elle. Aucun d'eux n'est recommandable, évitant les supercheries dans nos rapports interpersonnels. Contre un plaisir passager, Judas met en gage des objets précieux pour son équilibre social, objets tenant lieu de signatures personnelles et utile dans les transactions. Aujourd'hui, pour un morceau de pain, une affection, un poste de responsabilité, des honneurs, une bague de mariage, un enfant, beaucoup sacrifient pureté sexuelle, sécurité, valeurs, principes de vie, enfants, famille, voire leur foi. Souvenons-nous de l'avertissement de Jésus dans Marc 8, 36. Qu'elle soit brûlée. Tamar reprend ses habits de veuve, les efforts de Judas pour tenir promesse et reculer son gage deviennent infructueux. Pour ne pas salir sa réputation, il choisit de cacher son forfait et de perdre ses effets précieux. Quelle légèreté! Cependant, un rebondissement fait jaillir tout à la lumière. Tamar est enceinte. Judas ordonne qu'elle soit brûlée, l'accusant comme tous de prostitution. Mais les preuves qu'elle exhibe confondent son beau-père. Nous qui sommes souvent promptes et durs pour juger et trancher dans les cas des autres, prenons du temps avant de nous prononcer au risque de prononcer un jugement contre nous-mêmes. Question, Judas, a-t-il réussi à fuir le mépris? Vivons dans la transparence, nous dit Luc 17. Voilà. Nous allons nous arrêter là. Notre sœur Rose, maman Rose, sœur Rose.
Allô?
Sœur Rose?
Oui?
Bon anniversaire.
Ah! Merci papa.
Je vais donner la parole à notre sœur Christine de prier pour nous, pour la parole, mais de prier aussi pour notre sœur Rose, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Dieu notre Père, encore une fois, merci. Un très, très grand merci, Seigneur, pour les leçons que nous avons apprises aujourd'hui. Seigneur, tu nous as fait voir qu'il faut être transparent, il faut être sincère, il faut être honnête. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous avais dit que notre oui soit oui et que notre non soit non. Cette sœur, Tamar, était frustrée. Elle a été trompée à plusieurs reprises. Elle a cherché les moyens à elle pour pouvoir se venger. Et cela a marché, Seigneur. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard chez toi. Tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Et tes voix ne sont pas, tes pensées ne sont pas non plus nos pensées. Tu nous as appris cela aujourd'hui. Et désormais, Seigneur, nous allons mettre cela en pratique. Nous n'allons pas pointer le doigt sur quelqu'un sans pour autant regarder à nous-mêmes ce que nous avons fait. Seigneur, Judas croyait que lui n'avait rien fait de mal. C'est la femme qui avait commis adultère. Alors que toi, tu voyais le cœur de la femme. Tu voyais sa sincérité. Seigneur, merci. Merci, Papa, parce que tu avais permis qu'à travers cette ruse, qu'à travers toutes ces choses qui sont passées, qu'on ne peut même pas mentionner ici, que tu puisses manifester ta volonté parfaite. Seigneur, merci encore une fois pour ce temps que nous avons passé ensemble. Bénis tes serviteurs qui ont venu, Seigneur. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Bénis tous tes enfants qui étaient connectés ce soir. Et nous remettons ta fille Rose entre tes saintes mains. Seigneur, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est une grâce que nous recevons de ta part. Et Seigneur, nous voulons partager cette grâce avec elle en te disant un grand merci. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour que tu puisses encore lui ajouter d'autres années heureuses. Des années, Seigneur, qu'elle va passer à l'écoute de ta parole et au partage de ta parole. Béni sois-tu notre Dieu, toi qui as commencé avec nous, qui as terminé avec nous. Prends soin de nos bien-aimés qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Lorsqu'ils se réunissent encore le soir, soit au milieu d'eux. Nous qui allons dormir, continue à nous parler par le biais de ton esprit. Et que Seigneur, si tu ne reviens pas ce soir, nous puissions nous retrouver le dimanche pour partager encore ta parole. Et tu auras encore beaucoup de choses que tu vas nous apprendre sur la vie de Joseph en Égypte. Laisse que toute la gloire te revienne, Père, aujourd'hui à jamais. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
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 Merci. Merci beaucoup. Rapidement, le dimanche, nous rentrons en Romains 3, le verset 21 à 31. Merci et merci beaucoup. Nous n'avons plus assez de temps de faire d'autres annonces. On le fera même dimanche. Nous allons chanter un court refrain. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Merci, que Dieu vous bénisse, merci.
Amen. Ok.
Ok, bye.